C'est l'heure de retrouver notre invitée culture. C'est une comédienne aussi discrète qu'exigeante, aussi fidèle qu'entière. César du meilleur espoir en 1986 pour son rôle dans Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Elle a ensuite tourné au cinéma avec des réalisateurs aussi divers que Claude Miller, Martine Dugosson, Yvangelo, Benoît Cohen, Maïwenn Lebesco ou encore Gilles Bourdos. Parallèlement, elle a toujours joué au théâtre, du Shakespeare, du Chekhov ou des auteurs plus contemporains. Que ce soit avec Peter Brook qui lui a fait faire ses premiers pas, sa fille Irina, Michel Didim ou Pierre Pradinas, avec qui elle en est à sa 8e collaboration. Romane Boringer, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin.
Je vous remercie.
Vous êtes là parce que vous venez de reprendre La Cantatrice Chauve de Ionesco dans une mise en scène de Pierre Pradinas au théâtre 13e Art à Paris, qui est un nouveau théâtre.
Place
vous
d'Italie.
Êtes coiffé comment ce matin ?
Je suis chevelu, je suis en cheveux, comme on dit.
C'est étonnant pour une cantatrice chauve, n'est-ce pas? C'est la 8e collaboration, donc je le disais, avec Pierre Pradinas, le metteur en scène. Vous êtes quelqu'un de très fidèle à vos metteurs en scène. Il y a une vraie complicité, du coup, j'imagine, qui s'est établie avec lui, un compagnonnage même peut-être.
Ouais, ça m'a toujours fait rêver, moi, de les metteurs en scène, leurs acteurs, leurs actrices, enfin, les grandes... Pour ne citer que le plus grand, John Cassavetes, sa troupe d'acteurs, sa femme. Ça m'a toujours fait rêver d'aller plus loin qu'un spectacle. Ça ne m'intéresse pas tellement, finalement, un spectacle. C'est vachement beau de grandir ensemble. Et Pierre m'a fait énormément grandir comme comédienne parce qu'il m'a fait jouer au tout début des pièces de Gabor Rassov, qui sont des trucs de cinglés. Et puis après, on a fait Tchekhov, et puis après, on a fait La Biche, puis on a fait Shakespeare, et puis maintenant Ionesco. Et à chaque fois, comme on s'aime énormément, et je crois qu'on... Ouais, je crois qu'on s'estime, il pense, pour moi, à des rôles dont franchement...
Vous n'auriez pas pensé toute seule, c'est ça ?
Ouais, je n'aurais pas pensé. Et il m'a fait... J'ai l'impression que grâce à lui et avec lui maintenant, j'ai plus tellement de limites dans ce que je peux jouer. J'aurais jamais cru que je pouvais jouer une bourgeoise déglinguée de la cantatrice chauve. Voilà, il m'a beaucoup ouvert à la fantaisie aussi. J'ai beaucoup chanté dans ses spectacles, j'ai beaucoup dansé. C'est un metteur en scène avec qui il y a une grande joie à travailler. On fait beaucoup les cons aussi, même si c'est sérieux. Et donc ça donne à tout ça un côté, c'est très ludique de travailler avec lui. Et vraiment, j'étais réputée plus jeune pour des rôles plus noirs, plus ça m'a longtemps collé au train. Et avec Pierre, tout a volé en éclats. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai plus peur, quoi. Je me sens pas limitée.
C'est le fait d'être en confiance, en famille, qui vous permet de vous mettre en danger,
moi,
de prendre des risques.
Ouais, c'est qui croit en moi, qui rêve pour moi des rôles. Là, on va faire après la cantatrice, je vais avoir la chance de. Il me met en scène dans un texte de Annie Ernaux. Ça, c'est encore complètement autre chose. Voilà, c'est tout d'un coup, il est bien avec moi. Je crois que il sent que lui-même, comme metteur en scène, il est en sécurité, que je l'aime, que je vais protéger son travail. Et du coup, moi, je suis bien avec lui, donc on est détendu, on est heureux.
C'est une pièce, je le disais, qui a tourné en France l'année dernière.
Oui, on l'a créée l'année dernière à Annecy.
Vous avez même été nommée aux Molières pour votre rôle de Mrs. Smith. Le fait de la jouer à Paris, ça change quelque chose? Vous avez déjà constaté, ça a commencé juste cette semaine, c'est tout récent.
Ouais.
Donc vous avez quelques représentations seulement à Paris derrière vous, mais est-ce que vous avez déjà la sensation d'une réception du public différente?
J'aime pas jouer à Paris, moi.
Pourquoi? Vous n'êtes pas la seule à le dire.
Moi, c'est pour des pures raisons de... Moi, j'adore la tournée, j'adore les théâtres, les hôtels, les restes de petits dîners. J'aime bien être avec les gens de la troupe.
Cette idée de troupe.
Ouais. Et c'est vrai qu'à Paris, tout d'un coup... Bon, je dis j'aime pas, mais c'est pas totalement vrai. Il y a une excitation folle de enfin montrer son travail à ses amis, par exemple. Et puis, sur la réception...
Ou sur l'ambiance des salles,
Là, on est dans un lieu qui ouvre. C'est toujours assez joyeux d'ouvrir un lieu de théâtre. Après, vraiment, donc c'est Place d'Italie, dans le 13e. Donc, il faut arriver à ce que les gens identifient le lieu, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur jouer à Paris? Moi, je suis... Enfin, je veux dire, c'est une excitation de montrer le spectacle aux gens ici et de ça.
Où que ce soit, finalement.
Où que ce soit. Mais c'est vrai que je suis vraiment... J'ai l'impression que je suis très, très nomade. Finalement.
Et c'est ce nomadisme qui vous convient?
J'aime bien. Bon, là, ça me permet de voir les petites personnes qui me servent d'enfant, mais Mais sinon, j'aime bien être un peu nomade sur les routes.
Alors, la cantatrice Chouf, parlons de cette pièce, écrite en 1950, qui précisément, elle, se joue à Paris, au Théâtre de la Huchette, depuis 1957, c'est-à-dire depuis 60 ans. Est-ce que c'est intimidant, quand on est face à un tel record de longévité, pardon, de reprendre une pièce comme celle-ci?
Non, il y a vraiment un truc... Ouais, ça, c'est beaucoup aidé par le travail de Pierre. Pierre, c'est pas du tout un homme qui met des enjeux de ce type-là. C'est pas du tout quelqu'un qui nous met dans... Quand on a joué la biche, Pierre n'a jamais dit « Attention, la biche, c'est la mécanique » ou « Attention, Ionesco, c'est l'absurde ». Il n'est pas du tout là-dedans. Il part de très modestement du texte et puis, de manière assez enfantine, lui aussi, il le découvre avec gourmandise, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, on n'est pas du tout dans des espèces de mythes comme ça, pas du tout.
Vous l'avez vu, cela dit, au Théâtre de la Huchette?
Jamais, ni vu. Et faut se garder de penser à ça. Hein. C'est comme quand vous jouez Juliette dans Roméo et Juliette, il y a eu 125 Juliettes sublimes.
Sans parler de Tchekhov.
Voilà, c'est ça. Faut pas penser à ça. Faut plonger dedans comme si c'était la première fois. Et d'ailleurs, c'est toujours la première fois. Je veux dire, personne ne sera Madame Smith comme moi, et je serai pas comme une autre. Voilà, faut pas penser à tout ça.
Est-ce que vous vous êtes dit, Romane Boringer, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi cette pièce avait autant de succès depuis aussi longtemps, depuis sa création? C'est quand même une pièce qui s'est jouée quasi non-stop, hein, ouais. Je le rappelle, pendant 60 ans.
J'ai l'impression...
Elle est complètement atemporelle, l'idée?
Parce que j'ai l'impression que le... ça a été ardu pour moi, les répétitions au début. J'ai vraiment peiné.
Elle vous a donné du fil à retordre.
Ouais. Parce que chercher trop de nourriture spirituelle, trop de psychologie, j'avais besoin de comprendre la bonne femme que j'interprétais, et je comprenais rien. Et je me suis beaucoup tendue là-dessus, ça venait pas. Et puis tout d'un coup, après vraiment beaucoup de semaines de grandes difficultés, j'ai eu un éclair, et la lumière est entrée dans ma cabane. Je me suis délestée de... Il y a une sorte de... compréhension du truc qui est venu tout d'un coup, et tout d'un coup maintenant c'est d'une clarté folle, et c'est très enfantin en plus, donc je dis comment j'ai fait tous ces détours pour arriver à quelque chose d'hyper direct. En fait, Ionesco c'est très organique en même temps, c'est très malin, c'est très... Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que oui, elle est profondément basée sur l'humain, j'ai l'impression, sur le comportement humain, sur la comment dire, la folie qui nous habite, enfin les petits êtres qu'on est, parfois complètement désarticulés de la pensée, et donc c'est pas lié à une époque, c'est une espèce de portrait comme ça d'un petit monde clos,
qui petite bourgeoisie, un peu repliée sur elle-même.
Complètement reclus, même dans ses perclus d'habitude. Et ça, j'ai l'impression que que ça traverse, on est dans n'importe quel... Enfin oui, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mode à ce sujet. Et en plus, il se joue avec la langue d'une manière... je vous dis, quand on dit, que tout le monde dit qu'Ionesco a eu l'idée de cette pièce en étudiant l'anglais... par la méthode à 6000, I have a dog, my cat is yellow, et il y a un truc tellement, quand je dis enfantin, c'est difficile, je sais pas si je me fais bien entendre, il y a un truc très, il s'est vraiment, on a l'impression que lui-même s'est tellement amusé de tous les codes de théâtre, de langue, de pourquoi une pièce s'appelle La Cantatrice Chauve, et vraiment, il y a une petite fille hier qui m'a dit, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Ce truc de faire tout à l'inverse de ce qu'on faisait dans le théâtre classique, ou, ben ça, j'ai l'impression que cette ironie-là, cette audace-là, elle traverse toutes les époques et tous les âges.
Ça vous dit, Romane Boringer, d'entendre Eugène Ionesco parler de sa pièce, de la façon
n'importe quoi.
Vous allez l'entendre. C'est en 1964.
Eh bien, voilà. Il y a deux personnages. Un couple d'anglais, monsieur et madame Smith, après le repas. Et puis, ils se racontent quelque chose. Ensuite, entre deux autres personnages, et puis tous les quatre, ils se racontent des choses. Et puis, arrive un cinquième personnage, alors tous les cinq, ils se racontent des choses, et même ils se disent des anecdotes. Et puis arrive un sixième personnage, et puis ils se mettent à parler tous ensemble. Et puis il n'y en a plus. Ben, je crois que ça suffit, c'est intéressant.
Très intéressant.
C'est un sujet en or.
Un sujet en or. Mais dites-moi, ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la cantatrice Schumann?
Absolument rien.
Un rien qui est quoi? Parce qu'un rien, c'est toujours quelque chose.
Mais un rien... En rien supérieur, bien entendu. Non, ça voulait dire en autre chose, n'est-ce pas? Bien d'accord, les chauves, c'était à la fois une critique du théâtre de boulevard, une parodie du langage, l'expression de mon étonnement d'être devant des gens qui parlent. Alors, les mots se vident de leur contenu, et les gens se meuvent comme ça, d'une façon irraisonnable. On ne sait pas pourquoi ils entrent, ils sortent, ils sont 2, 4, 5, 6, 7. Mais aussi, et surtout, c'est un jeu gratuit. On a bien le droit de jouer avec les mots.
Vous aimez bien jouer?
Oh, bien sûr. Je crois que l'esprit de sérieux est une catastrophe. L'esprit de sérieux battait les casernes. L'esprit de sérieux fait les grandes concentrations. L'esprit de sérieux fait les fanatismes. Ben, il vaut mieux sourire, amèrement. Enfin, comme on peut. Enfin.
Extraordinaire, j'avais jamais entendu ça. Bon, bah, il résume beaucoup mieux que ce que je lui ai dit. Je passais parmi le. Mais voyez, le jeu, voilà. Quand on l'entend, on a l'impression qu'il fait une blague. Ça se parle de rien. Non, mais c'est extraordinaire d'entendre ça. Alors, moi, voilà, par exemple, l'esprit de sérieux, c'est ce pourquoi je travaille beaucoup avec Pierre. Il est jamais gagné par l'esprit de sérieux. Même quand il monte Vania de Tchekhov ou des pièces très importantes, il est jamais gagné par l'esprit de sérieux. Il est très humble par rapport à ça. Et surtout, on aime bien être ensemble et puis rendre le monde moins, hein, plus gay, quoi. Enfin, entre nous, en tout cas. Et du coup, pas d'esprit de sérieux. Alors, j'entends Ionescu. Je trouve ça hilarant, son interview.
Et c'est drôle à jouer, du coup, la pièce.
C'est extraordinaire.
Parce qu'on rit beaucoup, hein. Non, mais dans la salle. On continue derrière beaucoup, dans la
c'est
salle.
Addictif. Parce qu'il y a une espèce de quête de ce rien. Enfin, quand je disais c'était difficile la répétition, vous voyez quand il dit ça parle de rien. Enfin, quand on est comédienne et qu'on commence des répétitions, on ne peut pas se satisfaire de cette réponse. On veut trouver de quoi ça parle. On veut trouver de quoi animer son personnage. Et dans le début de la pièce, donc cette longue scène d'échange entre monsieur et madame Smith, madame Smith décrit par le menu ce qu'elle a mangé, que ça l'a fait aller au cabinet, qu'il y avait trop de poireaux dans la tarte. Au début, je disais à Pierre, mais c'est la purge. Mais comment on joue ça? Mais c'est chiant, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Et j'étais en nage au début des répètes. À chaque fois que j'ai commencé la répète devant Pierre, j'attendais qu'il me donne des réponses, mais j'ai trouvé. Ils sont habités par le rien, ça les angoisse complètement. Enfin, en tout cas, moi, madame Smith, elle est en angoisse, en vertige de ce rien. Donc, elle est, faut pas laisser une place, un endroit au silence, parce que sinon, mais c'est extraordinaire d'entendre Ionescu, il est fantastique. Qu'est-ce que c'est drôle, j'avais jamais entendu ça.
Bien. C'est écrit que Bobby Watson est mort.
Oh mon Dieu! Le pauvre, quand est-ce qu'il est mort?
Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi.
Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même, tu as été si étonné de voir ça sur le journal.
Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu. Par association d'idées.
Dommage. Il était si bien conservé.
C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Et il ne paraissait pas son âge, pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant et comme il était gai.
La pauvre Bobby!
Tu veux dire le pauvre Bobby?
Non! C'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Et pourtant... Aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances.
Voilà un extrait de la cantate Richaud avec votre voix, Roman Boringer, et celle de Stéphane Wojtowicz.
Magnifique partenaire.
Tous les deux, vous êtes quand même assez extraordinaire.
Je dois bien
le dire. Et les cinq autres, vous êtes cinq en tout. Vous êtes tous une troupe assez extraordinaire quand on voit sur scène. Franchement, ça marche extrêmement bien et nous rions beaucoup dans la salle. Donc ça se joue au théâtre du 13e art. Théâtre qui est un nouveau théâtre,
on le disait
tout à l'heure. Bon, alors il appartient à Gilbert Rozon qui est accusé d'agression sexuelle par 9 femmes, pour le théâtre qui risque pas de fermer, mais enfin bon, oui c'est moche.
C'est moche, mais je crois que c'est déjà en revente, enfin il y a tout un... Ouais, c'est pas de chance, enfin, c'est comment dire, c'est moche pour un lieu qui...
Qui vient d'ouvrir
avec des gens dedans très motivés, je crois, pour en faire un lieu de spectacle. C'est toujours quelque chose, un lieu qui ouvre, de théâtre, c'est plutôt souvent on les ferme. Donc, je crois qu'au sein de l'équipe de l'intérieur, il y a une grande ambition à faire venir les gens, puis à faire nous. Voilà, ils ont été un peu, on a un peu coupé les jambes dans leur élan, mais voilà, je pense qu'il faut que le théâtre soit repris par des gens de théâtre qui aient envie de faire perdurer cet endroit qui est quand même, c'est beau, un théâtre qui ouvre.
Roman Boringer, vous êtes une enfant de la balle, vous avez justement été baladée entre le théâtre et le cinéma pendant toute votre carrière. Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez plus à la maison qu'un autre? Est-ce que c'est plus le théâtre, plus le cinéma, les deux à la fois?
Je crois que le temps faisant, puis aussi tout ce que j'ai fait ces dernières années, je crois que j'ai vraiment... je me sens très très bien au théâtre. Je suis dans un état de plénitude presque, jamais atteint ailleurs. J'aime le cinéma, j'aime les plateaux et tout ça, mais j'ai un truc avec, quand je vous disais tout à l'heure, le nomadisme, un truc assez forain. Je sais pas comment, j'adore rentrer dans un théâtre, j'adore passer mes 2-3 heures avant de jouer, j'adore toute la vie qui entoure le théâtre, j'adore que ce soit que ce soit un truc de troupe tout le temps, j'adore qu'on puisse pas se passer les uns des autres, j'adore... J'ai vraiment une... C'est ma personnalité qui s'exprime le mieux au théâtre, en fait. Parce que c'est à la fois être très, très dans la lumière à un moment donné. Hein. Sur scène, il n'y a quand même pas... Et puis, tout d'un coup, tout à fait... Vous disiez tout à l'heure, entre discret et comédienne en même temps. Bon, c'est les deux. Le théâtre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même plus... Le théâtre, c'est... Vous rentrez, vous jouez votre truc, quoi. Et puis après, vous disparaissez, tout simplement. Et puis, personne ne sait tout à fait que vous avez été là.
Vous avez appris le théâtre, on pourrait dire, avec Peter Brook. Vous jouiez Miranda dans la tempête de Shakespeare. C'était en 91, vous étiez toute jeune, vous aviez 18 ans.
Ouais.
Je voudrais vous proposer d'écouter Peter Brook.
Ah.
En 1995, il parlait de la cerisée de Tchekhov, mais plus largement du théâtre. Écoutez.
La différence essentielle entre le théâtre et la vie, que dans la vie, nous sommes tous engagés d'une manière très forte à notre point de vue. Nous avons beaucoup de mal à en sortir. Dans le théâtre, on est libre d'être à la fois engagé et objectif. Si l'acteur joue bien et si la pièce est forte, on prend totalement son point de vue, mais le moment où il s'arrête de parler, on est libre d'entrer totalement dans le corps et l'âme de l'autre et de prendre un autre point de vue. Donc, dans une pièce d'un très grand auteur comme Tchekhov, on vit d'une manière très intense, les points de vue contradictoires.
Libre d'être engagé et en même temps objectif. Roman Boringer.
Oh, je peux pas commenter ce qu'a dit Peter. C'est trop nuancé.
Et il est tôt, il
est tôt. C'est trop nuancé.
Vous avez 2 minutes pour réfléchir.
Oui, d'accord.
Hein, vous rendez votre copie dans 2 minutes. En attendant, on va entendre Camille Magnard pour les titres du journal. Le sommaire de l'actualité. À tout de suite, Roman Boringer. Il est 7h30 sur France Culture. Camille Magnard.
Un déjeuner en famille à l'Elysée pour Saad Hariri, le chef démissionnaire du gouvernement libanais, a enfin pu quitter Riyad la nuit dernière. Il sera donc reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron, qui joue les médiateurs dans cette crise moyen-orientale entre Saoudiens et Iraniens. À 8h, nous reviendrons en détail et en analyse sur les questions très nombreuses qui restent posées quant à l'avenir de Saad Hariri et plus largement du Liban. La COP23 est terminée, vivement la COP24. À nouveau, les pays participants ont reconnu en clôture de la réunion annuelle l'urgence climatique. À nouveau, ils ont reporté à l'an prochain les vraies prises de décision. Ils se sont donc mis d'accord pour que l'année qui vient soit celle du dialogue sur les mesures concrètes à adopter face aux dangers du réchauffement global. Ils s'engagent également à dresser dans un an un bilan collectif de leurs émissions de CO2. Le New York Times lui conteste le bilan des morts civiles dans les frappes aériennes anti-Daesh en Irak. Selon les journalistes du quotidien américain qui ont enquêté sur le terrain pendant 6 mois, le nombre de victimes collatérales, quelques centaines selon le Pentagone, a été largement sous-estimé. Une frappe de la coalition sur 5 aurait fait des morts. Selon les témoignages recueillis, c'est 31 fois plus que ce que reconnaissent les états-majors. Des fausses notes attendues aujourd'hui dans la partition jouée par la majorité présidentielle. Le parti La République En Marche tient à Lyon son premier conseil national. Il va désigner pour le diriger Christophe Castaner, choisi par Emmanuel Macron en personne. Mais en interne, les dissensions devraient s'exprimer, venues de militants, attirés là par la promesse d'une vraie démocratie participative et déçus par l'autoritarisme du parti. Et puis un tirage spécial du loto pour financer la rénovation du patrimoine français. Voilà l'annonce qui a été faite hier par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Et ce, alors que les communes françaises doivent de plus en plus renoncer à des travaux sur leur monument faute d'argent public. Nous y reviendrons sur ce sujet comme sur d'autres également dans le journal de 8h, Caroline.
Je vous écoutais et je regardais notre invité Roman Boringer. Vous écoutez d'ailleurs aussi attentivement. Vous êtes intéressé par l'actualité, Roman Boringer?
Oui, évidemment.
Alors, on va revenir tout de suite.
Enfin, je veux dire, je suis évidemment à garde et sensible face au monde qui nous entend.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque dimanche sur France Culture à 11h, rendez-vous avec Émilie Aubry pour l'Esprit Public.
Dimanche, l'Esprit Public est en public et en direct de la Maison de la Radio pour un autre regard sur l'actualité de la semaine. Nous reviendrons sur la COP23 en nous demandant pourquoi ceux qui nous dirigent semblent pratiquer la politique de l'autruche. Et puis nous nous demanderons où est cette droite qui n'est pas au centre, avec nos visiteurs du dimanche, François-Xavier Bellamy, Thierry Pech, Christine Ockrent et Gilles Finkelstein.
L'Esprit Public, en direct et en public ce dimanche à 11h, Studio 105 de Radio France. Entrée gratuite, réservation maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
À suivre dans la prochaine demi-heure, après notre entretien avec Roman Boringer, à 7h40, la fabrique médiatique sur les relations de dépendance entre les médias et Facebook avec le directeur du numérique de Radio France, Laurent Frisch, et le cofondateur de Brut, Guillaume Lacroix. Vous nous disiez que vous êtes quelqu'un d'intéressé par l'actualité, que vous suivez les choses de près. Est-ce que ça vous arrive, Roman Boringer, de mélanger le côté citoyen, enfin votre citoyenneté, disons, et vos choix professionnels?
Ah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ma grande chance. Je suis une assez mauvaise citoyenne, honnêtement. Enfin, je suis.
Ça veut dire quoi être bon mauvais citoyen ?
Je suis trop individualiste. Je m'occupe de moi, de ma famille, et puis un peu des gens autour de moi. Mais enfin, je suis pas très non plus. C'est pas moi qui vais changer la face du monde si on m'attend. Enfin, je veux dire, voilà, je suis normale, quoi. Je suis pas. Mais j'ai cette chance qui est de pouvoir, par le choix de mes textes, parfois dire. Quelque chose qui m'étreint, mais j'ai pas les bons mots, je suis ni sociologue, ni politologue, mais je suis interprète, alors des fois, l'année dernière, j'ai joué un très beau texte qui s'appelle Lampedusa Beach, sur
Lina Prosa.
Voilà, sur les migrants. J'ai joué un texte anglais que j'aime follement, qui s'appelle Les Événements, qui est un spectacle qui avait été écrit après les attentats en Norvège. L'année dernière, il y a des textes qui sont venus à moi, comme ça, et qui était pile au moment où c'était très important pour moi d'exprimer cette espèce de hagardise, on dit pas hagardise, mais hébétement, sur scène. Et puis voilà, je peux lire des textes, c'est ma seule, c'est tout ce que je sais faire, de toute façon le théâtre, je sais rien faire.
Mais dans des films aussi, Roman Boringer,
oui,
vous avez joué dans un téléfilm, Le Viol par exemple,
oui,
pour France 3, qui était diffusé en septembre,
ouais.
vous y jouiez le rôle d'Arlette
Laguiller,
à partir d'un fait divers en 1974 de deux filles violées et de leur procès. Puis ouais. On peut penser à la série Héroïne aussi.
Oui, tout à fait.
Série Héroïne d'Audrey Estrougo, diffusée en février dernier sur Arte.
Ouais, bien sûr, mais
il y en a d'autres d'ailleurs.
Je vous dis, je suis limitée par ma capacité d'engagement, c'est-à-dire que je sais pas trop par quel bout prendre les choses comme citoyenne, évidemment. Mais ça, c'est extraordinaire de pouvoir être la voix des choses qui nous troublent. J'ai une grande chance d'avoir cette arme entre guillemets.
Par ailleurs, vous êtes la marraine d'un nouveau festival.
Oui, tout à fait.
À Montreuil. Alors, Marmot.
On dit Marmot, oui.
Comme les marmots, de fait, j'imagine. Festival d'art à destination des enfants. Bon, Montreuil se bouge beaucoup hein, pour les enfants. Ouais. Il y a le mois de la petite enfance, il y a le salon du livre de jeunesse à partir du 29 novembre. C'est important, ça, pour vous? C'est une forme d'engagement pour vous?
Oui, carrément. Parce que, je ne sais plus si c'est Boris Cyrulnik qui a parlé de ça au moment des attentats ou je ne sais pas. Il disait que vraiment, le théâtre pouvait sauver une partie du monde. Alors, je pense que c'est un petit peu optimiste, mais moi, par exemple, il me sauve de bien des... Quand je rentre dans mes théâtres, comme dirait Barbara, dans mes théâtres le soir, je suis quand même à l'abri de la violence des hommes et de la violence du monde. Il y a quelque chose de très paisible dans un théâtre, aussi de vivre ensemble. On vit, nous cinq, là, sur la cantatrice Sauve, on est très différents les uns des autres. Pourtant, on vit ensemble depuis des mois, on voyage de ville en ville, on s'accommode des qualités, des fautes de chacun. Il y a quelque chose de très fort sur vivre ensemble, ce fameux truc-là. Et quand Montreuil, par exemple, quand la ville de Montreuil m'a proposé d'être marraine, Montreuil, c'est un exemple type, c'est une ville quand même très, avec des gens aisés comme moi, puis avec des gens très, très délaissés. Et tout d'un coup, le théâtre, j'ai l'impression que théâtre, montrer du théâtre à des enfants, par exemple, peut changer leur vie. Alors ça, j'y crois vraiment. Donc, dans quelle proportion je sais pas, mais s'il y en a deux, trois dans la salle qui... Voilà, je lisais un article terrible l'autre fois sur la robotique et tout ça, on disait que comme les robots allaient tous nous remplacer, il fallait cultiver chez les enfants, au contraire, tous ces apprentissages à côté. Parce que les robots vont savoir faire tout ce qu'on sait faire, sauf ça, la sensibilité. Donc il faudrait développer chez les enfants tout ça, tous les trucs parallèles. Et je crois qu'un enfant, par exemple, qui voit du théâtre bien, quoi, du théâtre qui lui est adressé, du théâtre pour le faire triper lui, hein, il peut vraiment, ça peut ouvrir un grand champ des possibles dans son esprit. Et moi, ça m'a rendu meilleur. J'étais bête. Ça m'a rendu plus riche, le théâtre, de jouer Hugo, de jouer des textes qui m'ont appris des choses sur l'humanité et tout ça.
Romane Boringer, vous citiez Barbara il y a à peu près deux minutes maintenant. C'est justement une chanson de Barbara que vous avez choisie.
C'est pas hyper gay, pardon, chers auditeurs. C'est tellement touchant.
Ouais, mais c'est très très beau. Ouais. C'est Barbara chantée par Depardieu. Vous savez que Depardieu est au Cirque d'Hiver à Paris jusqu'au 19 novembre sur scène pour chanter
c'est
Barbara.
C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, Depardieu sur scène.
Je suis d'accord. Ouais. Chantant Barbara, c'est magnifique. Vous avez choisi Drouot. Ouais. On écoute un peu
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était là figée, superbe et déchirante, les mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore, déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes bourdonnait une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre, les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre.
Restez au chaud sous la couette. Nous avons des frissons avec Romane Boringer. Merci beaucoup, Romane Boringer.
Je vous remercie de votre accueil intime et comment dire, on a le temps. C'était
merci à vous. Donc vous jouez la cantatrice chauve de Ionesco, faut-il le rappeler, dans une mise en scène de Pierre Pradinas avec vos partenaires tous formidables, du 14 novembre au 10 décembre au théâtre Le 13e Art à Paris, puis le 13 décembre au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye, le 15 décembre au théâtre Théo Agence à Saint-Priest et le 19 vous serez au théâtre des Jacobins à Dinan. Le mois des arts de Montreuil pour l'enfance, le festival Marmot, c'est jusqu'au 26 novembre à Montreuil. Un grand merci encore.
Mais je vous remercie vraiment.